sérieuses. Le simple fait d'avoir des fois une sinusite ou des problèmes de vision ou une hypertension artérielle peut engendrer un mal de tête. Quand les gens ont une constipation qui dure longtemps, il y en a chez qui ça déclenche. Les maux de tête sont multiples, mais la migraine n'est pas une maladie infectieuse, en tout cas dans sa forme neurologique. C'est une maladie neurologique, mais qui ne touche pas l'intérieur du cerveau.
Bon, professeur, la migraine ne touche pas l'intérieur du cerveau, mais qu'est-ce qui se passe donc?
La migraine, c'est un problème vasculaire, c'est-à-dire qu'au lieu que les artères qui amènent le sang vers la tête aient un diamètre régulier, brutalement, ils se dilatent ou brutalement, ils se resserrent. Et donc, cette variation, dilatation et resserrement des artères est le primum movens de la crise de migraine déclenchée par des facteurs que je viens de citer. Mais la migraine dans sa forme classique, mal de tête qui change de côté, qui récidive pendant plusieurs fois dans la vie, n'est pas une maladie due à une infection, alors que dans les maux de tête, vous avez quelquefois des causes infectieuses et plusieurs causes qui ne sont pas des causes infectieuses du tout.
Il y a plusieurs maux de tête. Comment quelqu'un pourrait-il reconnaître qu'il souffre d'une migraine? Quels sont les symptômes qui pourraient alarmer quelqu'un?
Dans le cas d'une migraine classique comme celle qu'on a l'habitude de voir, le mal de tête, je viens de le dire, siège d'un côté du crâne. C'est un mal de tête que les malades vont décrire comme étant pulsatile, c'est-à-dire comme si le sang battait dans une moitié de la tête. Et en général, quand vous les interrogez, on leur demande souvent, est-ce qu'il n'y a pas des signes prémonitoires, c'est-à-dire des signes qui précèdent le déclenchement de la douleur?
Que disent ces patients?
Un bon nombre de malades vont vous dire dans l'œil du même côté où s'est déclenché ou a siégé la crise de migraine, dans cet œil-là, quelques minutes avant, ils ont l'impression d'avoir vu des points lumineux ou des zigzags qui augmentent de diamètre ou des sortes de flashs ou en tout cas un trouble de la vision. Ça, c'est quelque chose que l'on retrouve. Ensuite, se déclenche la douleur pulsatile.
Que signifie une douleur pulsatile?
C'est-à-dire comme si ça tape dans la tête. Ensuite, vous avez une impression d'envie de vomir chez certains malades. Et d'autres malades, vous allez avoir une sorte de mal-être qui peut aller jusqu'au vertige. Et pratiquement tous les malades vont vous dire que le fait qu'il y ait du bruit et de la lumière exagère l'intensité de la douleur. Et ils finissent par savoir que dès la crise de migraine déclenchée, ils doivent chercher un endroit sombre, sans bruit, et ça va contribuer tant soit peu à atténuer l'intensité de la douleur. Donc je répète quelques signes annonciateurs. Déclenchement de la douleur dans une moitié de la tête qui ressemble à des battements dans le crâne, suivi ou non d'autres signes accompagnateurs, nausées, vomissements, mal-être, vertige et autres, et intensification de la douleur à cause du bruit et de la lumière.
Nous avons une auditrice, Jeanne Niazalé. Elle dit qu'elle souffre actuellement des migraines. Et qu'est-ce qu'elle doit faire? Est-ce qu'en cas de migraine, il faut s'alarmer ou il y a quelque chose qu'on peut faire à la maison? Faut-il nécessairement consulter?
Une douleur où qu'elle siège est un symptôme qui alerte la personne qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas peut être quelque chose de banal, ce qui ne va pas peut être quelque chose de plus grave. Une infection peut se manifester par une douleur, comme une fracture peut se manifester comme une douleur, mais une douleur, un vomissement, une fièvre sont des symptômes qui doivent alerter les individus et les amener à se faire consulter. Donc ça, c'est le premier conseil. Et quand vous allez consulter, le rôle du médecin, qu'il soit neurologue ou pas neurologue, c'est à partir de ce symptôme-là, d'arriver à poser un diagnostic en vous disant que votre mal de tête est dû à telle cause que je viens de diagnostiquer en vous examinant, ou bien j'ai fini de vous examiner, mais nous avons besoin de faire des examens complémentaires.
Quels sont ces examens supplémentaires qu'un médecin peut demander à faire pour déterminer le diagnostic?
Ça peut être une prise de sang et l'analyse du sang, ça peut être une radio du crâne, ça peut être un scanner, ça peut être un électroencéphalogramme ou d'autres examens plus lourds comme l'IRM, ça peut être tous les moyens techniques médicaux dont on dispose. À la fin de ce processus-là, le médecin doit a priori arriver à un diagnostic et vous dire que votre mal de tête est un mal de tête qui n'est pas grave. Vous n'avez pas de tumeur, vous n'avez pas d'infection, vous n'avez pas de malformation. Vos yeux, vos oreilles, vos tensions, tout est normal. Donc, il s'agit d'une migraine parce que ça touche une moitié de votre tête. C'est récidivant, c'est pas une maladie grave. Donc, c'est vraiment aller consulter parce que certaines migraines, c'est pas la majorité, mais en tout cas, certaines migraines peuvent cacher derrière elles une autre maladie. Je viens de vous citer des exemples de maladies qui ne sont pas la migraine, mais dans quelques cas, cette migraine, surtout dans les cas, et ça j'insiste là-dessus et je voudrais que les auditeurs prêtent une attention à ce que je vais dire, c'est-à-dire quand vous avez une migraine qui siège d'un côté de la tête, toujours du même et seul côté de la tête, et qui ne change jamais de côté, qui ne bascule pas d'une crise à une autre, à gauche ou à droite, ça c'est une raison fondamentale d'aller se faire consulter et d'aller jusqu'à l'imagerie du crâne et du cerveau, parce que quand une migraine ne change pas de côté, c'est pas forcément dans tous les cas, mais il y a des cas où derrière se cacher une maladie qui va nécessiter une prise en charge assez spécialisée.
Est-ce qu'il y a certaines personnes qui sont les plus exposées aux migraines par rapport à d'autres?
La migraine classique, mal de tête, changeant de côté, pulsatile avec les signes accompagnateurs ou non que je viens de décrire, sur 10 cas de migraine, les 8 voire les 9 vont être des personnes de sexe féminin. Dans un ou deux cas, ça peut être un homme. Alors, quand on parle de migraine pure, sans cause dramatique derrière, et que ça touche une femme, parce que c'est la majorité, si elle remarque bien, la migraine a dû se déclencher vers les premières années de la puberté, donc en 13, 14, 15, 16 ans.
Cette migraine va-t-elle s'arrêter ou continuer?
Va continuer pratiquement toute la vie, de manière intense ou pas intense, fréquente ou pas fréquente, pour finir par complètement disparaître après la ménopause, donc à l'arrêt définitif des règles.
Mais professeur, les enfants peuvent-ils aussi souffrir des migraines?
Il y a des cas où l'âge de début peut être beaucoup plus précoce chez des jeunes enfants. C'est pas fréquent, mais ça arrive, surtout dans des familles où la grand-mère était migraineuse, la mère est migraineuse, etc. Donc il y a un facteur familial qu'on trouve des fois, ou des femmes chez qui la migraine va se prolonger après la ménopause. Ça, ce sont des cas exceptionnels. Et donc le fait que ça démarre vers la puberté pour s'arrêter vers la ménopause fait évoquer parmi les facteurs causaux de migraine un rôle que joueraient les hormones féminines. Mais ce n'est pas exclusif de la femme.
Donc il n'y a pas que les femmes qui peuvent être victimes des migraines, mais les hommes aussi peuvent souffrir des migraines.
Il y a des hommes qui souffrent de véritables migraines comme celles qu'on a décrites chez la femme. Il existe par contre chez les hommes quelque chose qui est dans le même groupe de douleurs, mais qui ne va pas avoir un siège prépondérant au niveau du crâne, donc de la tête, mais qui va descendre un peu plus bas vers le pourtour de l'œil, une partie du visage, et qu'on appelle algie vasculaire de la face. Quand vous avez 10 algies vasculaires de la face, à l'inverse de ce que je viens de dire pour la migraine, les 8 ou 9 cas vont être chez les hommes et il n'y aura que 1 ou 2 cas chez la femme.
L'algie vasculaire cérébrale, qui est une sorte de mal de tête, donc elle atteint plus les hommes que les femmes.
Il se trouve que l'algie vasculaire de l'homme et la migraine partagent à peu près les mêmes phénomènes qui les causent, passant in fine par une instabilité du calibre des artères et perturbant la régularité de la perfusion cerveau, du crâne et autres, mais sans en faire une maladie neurovasculaire comme celle qu'on trouve dans les accidents vasculaires cérébraux. Ça n'a absolument rien à voir, pour rassurer vos auditeurs.
Vous venez de suivre notre discussion avec le professeur Amadou Gallo Diop sur les migraines. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de santé.
Cette semaine, dans Carnet de santé, nous jetons un regard sur la santé rénale. Au Ghana, les maladies rénales sont en hausse avec un accès limité aux soins. Ensuite, au Libéria, un programme pour l'aide aux anciens enfants soldats est mis à profit pour lutter contre la drogue. Et enfin, des chirurgiens américains réalisent un exploit en effectuant la première greffe d'œil au monde. C'est dans cette édition de Carnet de santé. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour une nouvelle édition de Carnet de santé. Les chiffres sont stupéfiants, environ 850 millions de personnes dans le monde souffrent de maladies rénales selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 2,6 millions de personnes en perdent la vie chaque année. Les reins ont pour rôle de nettoyer le sang des toxines et transformer les déchets en urine. Le corps humain a deux reins. Cet organe peut être endommagé en raison d'une maladie rénale chronique. Il est possible néanmoins de vivre en bonne santé avec un seul rein. La maladie rénale survient lorsque les reins ne peuvent pas filtrer correctement le sang. Elle est souvent diagnostiquée tardivement, nécessitant une dialyse pour filtrer le sang ou des greffes de reins. Ces traitements peuvent être très coûteux ou inaccessibles à beaucoup de personnes, y compris en Afrique. Partons au Ghana, où le centre hospitalier universitaire de Tamale, dans la région nord, a enregistré une augmentation des cas de maladies rénales. Le point avec Alassane Abdoul Wachid, récit d'Ilidiko.
Yahaya Wanzam Adam est un infirmier spécialisé à l'hôpital universitaire de Tamale, dans la région nord du Ghana. Il explique que ses patients ont de moins en moins les moyens de se faire soigner pour des affections rénales.
Nous avons commencé avec 3 patients et au fil du temps, le nombre de patients n'a cessé d'augmenter. À l'heure actuelle, nous recevons entre 60 et 70 patients sous dialyse.
Environ 10% de la population mondiale est atteinte d'une maladie rénale chronique, selon la National Kidney Foundation des États-Unis. Pour le Ghana, la prévalence est d'environ 13%, selon une étude réalisée en 2018. Les autorités médicales ghanéennes affirment que cette maladie est due en partie à une alimentation riche en sel et en sucre. Le régime national d'assurance maladie, financé par le gouvernement, fournit des soins de santé gratuits pour certains traitements et médicaments.
Le fait que la dialyse soit prise en charge par l'Autorité nationale de santé est un point sur lequel de nombreuses personnes ont fait des commentaires. En interne, nous en avons également discuté avec le personnel de l'Autorité nationale de santé.
L'hôpital universitaire de Tamale, dans le nord du Ghana, traite des patients originaires de 6 régions du pays. Yahaya Wanzam Adam explique que la plupart des patients dialysés doivent recevoir le traitement standard, c'est-à-dire 3 fois par semaine, mais que très peu de personnes peuvent s'offrir ces traitements.
La plupart d'entre eux font donc 2 dialyses par semaine pour les patients qui ne sont pas en mesure de venir pour une dialyse pendant toute une semaine, lorsque vous les voyez. C'est vraiment terrible. Le pronostic vital est engagé et la personne peut mourir.
Monsieur Abdoul Latif indique que l'Autorité nationale d'assurance maladie couvre le traitement des patients chez qui la maladie est diagnostiquée pour la première fois, mais il précise que son organisation envisage d'étendre la couverture aux soins de longue durée dans le cadre de son examen annuel des maladies et des médicaments couverts. Mais il ne s'agit pas seulement de couverture. Il y a également une pénurie de machines de dialyse.
Actuellement, 5 machines fonctionnent efficacement. Imaginez que vous dialysez plus de 25 patients et que chaque séance dure environ 4 heures, de sorte que le temps d'attente pour les patients est très élevé. Et si nous disposons de 15 ou 20 machines, le temps d'attente pour les patients est très long. Ce que je veux dire, c'est que cela permettrait de réduire le temps d'attente et d'alléger le fardeau qui pèse sur le patient.
Les Ghanéens espèrent que la révision annuelle prendra en compte les préoccupations des familles et des patients souffrant d'insuffisance rénale aiguë et qu'elle répondra à la fois aux besoins d'une couverture étendue et au manque de machines de dialyse.
Le docteur Ibrahim Oumaté est professeur de médecine et de néphrologie et coordonnateur du service rénal au centre hospitalier de l'université de Maïdougouri. Il fournit des précisions sur les maladies rénales et comment prendre soin de ses reins.
Nous distinguons généralement 5 catégories de patients souffrant de maladies rénales, en particulier de maladies chroniques. La première catégorie qui correspond au premier stade et la cinquième qui correspond au dernier stade où la personne a atteint un niveau qui nécessite une certaine forme de remplacement de la fonction rénale. La personne peut ne pas remarquer des symptômes. Et le symptôme d'un malade est généralement le suivant. La personne remarque des vomissements, généralement très tôt le matin, ou une perte d'appétit. La personne peut également commencer à remarquer un gonflement du corps. Le corps commence à gonfler en commençant par le visage. On parle alors de ballonnement du visage ou de gonflement général du corps que l'on appelle œdème généralisé. Certaines de ces personnes peuvent présenter des saignements précoces et faciles. Elles ont une certaine facilité à se blesser. Elles peuvent également ressentir des douleurs dans la région épigastrique que l'on appelle localement douleur thoracique ou douleur épigastrique. Ce sont là les signes d'une maladie rénale. Quelles sont les causes de l'insuffisance rénale chronique? Les facteurs que j'ai mentionnés, l'hypertension, le diabète, certaines formes d'infection des voies rénales, la prise de médicaments traditionnels, la prise de médicaments en vente libre, la prise de médicaments analgésiques en vente libre, l'utilisation de médicaments contenant du mercure, la prise d'herbicides ou d'insecticides qui sont répandus dans les régimes alimentaires. Certaines personnes peuvent avoir des maladies génétiques, comme celles qui sont atteintes de drépanocytose, celles que nous appelons les stickers. Comme je l'ai dit, nous sommes censés contrôler régulièrement notre système. Même si une personne est normale, qu'elle n'a rien, à partir d'un certain âge, par exemple 40 ans et plus, elle doit se rendre à l'hôpital pour des contrôles réguliers. Il est important de savoir si on souffre d'hypertension ou de diabète, car la plupart du temps, l'hypertension n'est pas symptomatique. Et si vous remarquez des symptômes chez un hypertendu, cela signifie que les organes sont touchés, n'importe lequel d'entre eux. C'est pourquoi un symptôme apparaît. Pour prévenir l'hypertension, il faut boire suffisamment d'eau et consommer des fruits. Et si votre urine devient colorée, ambrée ou rougeâtre, cela signifie que vous ne consommez pas assez de fruits. Prenez suffisamment de fruits, suffisamment d'eau, pour que l'urine que vous excrétez soit aussi incolore que l'eau. Cela réduit considérablement les risques de maladies rénales, le fait de consommer suffisamment de fruits et d'éviter les médicaments en vente libre.
Un rapport de l'Action mondiale pour le développement durable datant de 2023 révèle que le Libéria perd toute une génération à cause de la drogue. Selon le rapport, la capitale Monrovia compte à elle seule plus de 800 centres de drogue et environ 100 000 utilisateurs de drogue. Une génération plus âgée d'anciens enfants soldats réhabilités s'est mobilisée pour lutter contre la drogue en utilisant une approche de thérapie comportementale. Sena Noutord nous en dit plus depuis Monrovia au Libéria. C'est avec la voix de Gininiwa.
Le long de la rivière Due à Monrovia se trouve une communauté d'environ 150 jeunes connus pour la consommation et la vente de drogues illicites. Ceux qui vivent ici appellent le quartier Aboulé City et disent que c'est un havre de paix pour les chômeurs et autres personnes frustrées. Bénédicte Souza est un habitant et un leader de la communauté. Il explique que le chômage au Libéria a poussé de nombreux jeunes au désespoir. Beaucoup ont recours à la drogue pour s'en sortir.
Aboulé regroupe toutes sortes de pratiques. On y trouve des consommateurs d'alcool, on y trouve des consommateurs de drogue, on y trouve des consommateurs de cigarettes, on y trouve des consommateurs d'opium, on y trouve des consommateurs de couches, tout le monde.
Suza explique que si le chômage au Libéria a poussé certains jeunes à commettre des crimes violents, des communautés comme Aboulé City offrent une sorte de protection à ceux qui y vivent.
Nous ne permettons pas aux intrus, en particulier les criminels, de venir parmi nous parce que les habitants de la communauté se reposent sur nous. Nous sommes d'accord sur le fait qu'il s'agit de substances difficiles que nous ne sommes pas censés faire. Mais à raison de la situation actuelle, nous le faisons.
Un rapport de 2023 de l'Action mondiale pour le développement durable indique qu'il existe 866 ghettos comme Aboulé City dans la seule capitale du Libéria. Le rapport estime qu'environ 100 000 jeunes à Monrovia ont des problèmes liés à la toxicomanie. Les défenseurs des droits de l'homme affirment que la guerre civile qui a sévi pendant 14 ans au Libéria dans les années 1990 et au début des années 2000 est à l'origine de cette épidémie.
Depuis la fin de la guerre civile, la question des drogues a commencé à se poser dans le pays. Au début, ce sont les seigneurs de la guerre qui s'en occupaient. Il est donné aux combattants pour qu'ils soient plus courageux sur la ligne de front. Parce que, jusqu'à ce moment-là, ils ne peuvent pas retrouver leur esprit. Il leur donne le courage de se battre. Après la guerre, c'est devenu un commerce important au Libéria.
Les toxicomanes sont admis dans le programme pour 8 semaines, où ils reçoivent des conseils et des thérapies qui incluent une formation aux compétences de vie et un soutien à la réinstallation. 314 jeunes toxicomanes sont diplômés de la première promotion de NEPI en août. Ils ont reçu un soutien financier pour qu'ils puissent se réinsérer dans la société.
Les autorités sanitaires en Zambie indiquent que le nombre de cas de cancer du sein chez les jeunes femmes est en hausse dans le pays. Des cas de la maladie sont diagnostiqués fréquemment et à un stade déjà avancé, augmentant le risque de mortalité. Reportage de Cathy Short depuis Lusaka en Zambie. Récit Blanche Sanou.
Docteur Catherine Mouaba dirige l'unité de radiothérapie et d'oncologie clinique à l'hôpital des maladies cancéreuses du Lusaka en Zambie. Elle a expliqué à la VOA que son hôpital, le seul centre spécialisé dans le traitement du cancer dans le pays, accueille chaque année entre 2700 et 3000 nouveaux patients atteints de cancer. De nombreux patients doivent parcourir de longues distances pour se faire soigner. Madame Mouaba explique qu'elle a remarqué une tendance inquiétante parmi les patientes de l'hôpital atteintes d'un cancer du sein.
Dans nos hôpitaux, nous recevons en moyenne 200 à 250 nouvelles patientes atteintes d'un cancer du sein. Ce qui est particulièrement remarquable chez nos patientes, c'est qu'elles sont jeunes, l'âge moyen étant de 45 ans. C'est vraiment leur âge productif. L'autre caractéristique est qu'elles présentent des types de cancers du sein très agressifs.
Selon Mme Mouaba, l'augmentation des cas de cancer du sein chez les jeunes femmes pourrait être due à de nombreuses raisons, notamment l'urbanisation, le manque d'exercice physique régulier, un régime alimentaire occidentalisé, l'obésité, le fait d'avoir des enfants tardivement et ne pas allaiter. Oudi Fevou-Soko a survécu 2 fois au cancer. Elle a eu un cancer des ganglions lymphatiques à l'âge de 23 ans et un cancer du sein en 2015 avant son 50e anniversaire.
J'ai dû faire face à beaucoup d'émotions, des émotions psychosociales, pas l'aspect physique, mais plutôt la partie émotionnelle et spirituelle. C'était une période très difficile pour moi.
Désireuse d'aider les autres à s'attaquer à cet aspect mental, Soko a fondé la Société Zambienne du Cancer, une organisation à but non lucratif dont l'objectif est d'améliorer la vie des patients atteints de cancer dans le pays. Récemment, la ministre zambienne de la Santé, Sylvia Masebo, a annoncé son intention de construire 2 autres hôpitaux spécialisés dans les maladies cancéreuses pour faire face à l'augmentation du nombre de cas.
C'est une première mondiale porteuse d'espoir pour les personnes ayant perdu l'usage d'un œil. Des chirurgiens américains ont annoncé avoir réalisé la première greffe d'un œil complet sur un patient. L'exploit a été salué comme une avancée médicale extraordinaire, bien que le patient n'ait pas retrouvé la vue pour l'instant. Selon l'équipe chirurgicale de NYU Langone Health, l'œil greffé présente d'importants signes de bonne santé 6 mois après l'intervention, notamment des vaisseaux sanguins fonctionnels. L'opération a duré 21 heures. Selon les experts, la principale difficulté d'une greffe d'œil est d'arriver à rétablir la transmission d'informations vers le cerveau à travers le nerf optique. Le patient receveur, un homme de 46 ans de l'Arkansas, a été victime en 2021 d'un accident de travail durant lequel son visage avait touché une ligne électrique à haute tension. Entre autres, des cellules souches issues de la moelle épinière du donneur ont été injectées dans le nerf optique du patient dans l'espoir d'améliorer sa régénération.
C'est ici que s'achève notre programme « Votre santé, votre avenir ». Nous avons discuté avec le professeur Amadou Gallo Diop sur les migraines. Le professeur Gallo Diop est chef du service de neurologie au CHU FAN et directeur de la coopération de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar au Sénégal. Vous avez aussi écouté Carnet de santé présenté par Linor Moudou sur le suicide. Ce magazine santé a été réalisé grâce au concours de Michel Joseph, à la réalisation Zainab Abdelrahman. Devant ce micro, Nanit Talani. Continuez d'écouter VOA Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. Salut! Retrouvez votre santé, votre avenir sur VOA Afrique tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30 temps universel.
votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de mieux connaître les maladies et les dernières nouvelles concernant la santé dans votre région grâce à l'intervention des médecins et d'autres professionnels de santé ainsi que les témoignages des patients. N'oubliez pas, votre santé, votre avenir, c'est tous les samedis, dimanches et mercredis à 8h30, temps universel sur